35. Élise. Dans 5 jours, j'aurai 50 ans. Les enfants ont affirmé qu'ils ne pourraient venir les fêter avec moi, mais je ne suis pas dupe. Charline a fait une gaffe lors de notre dernière conversation téléphonique. Une surprise se trame. Je ferai semblant d'être étonnée. Je me réjouissais à l'idée de les avoir tous les deux à la maison, jusqu'à ce que je me rappelle que la chambre de Thomas ne comportait plus de lit. Il n'avait nulle part où dormir. Alors j'ai rouvert sa porte. J'y ai installé une banquette convertible, que le livreur n'a pas voulu monter au 4e étage. Monsieur Lapin est passé à côté de moi, tandis que je tentais péniblement de déplacer le meuble. Il a ronchonné, contrarié de devoir contourner l'objet. J'ai osé lui demander de l'aide. Il a refusé. Il était pressé. C'est Madame Moussa qui m'a prêté main forte. Nous avons traîné le canapé devant l'ascenseur, réussi à le caser dedans, envoyé au 4e, réceptionné à l'arrivée et fait glisser jusqu'à la chambre de Thomas. Pour la remercier, je lui ai proposé un verre de jus d'orange. Elle a décliné. Elle devait libérer la babysitter. Après le départ de Charline, il m'a fallu du temps pour réaménager sa chambre vide. J'avais peur qu'elle se sente effacée, peur que cela l'empêche de revenir. J'ai attendu 2 ans avant de la transformer. J'y ai laissé son lit, pour les nuits où elle serait là, et son doudou préféré. J'y ai ajouté une bibliothèque, des livres, un bureau, des rideaux, de la vie. Il est temps que j'en fasse de même pour la chambre de son frère. Sous l'œil impavide d'Edouard, allongé sur le pas de la porte, je range coupe et médaille, dispose cadres et vases sur les étagères. Dans le placard, je place les draps et le linge de bain. Ils encombraient la commode. Je roule les posters, classe les photos. J'échange le lustre Star Wars contre un plafonnier en bambou. Je plie les derniers vêtements, je les renifle. Je laisse le graffiti. Je fais entrer la table à repasser. Elle ne trônera plus dans le salon. Une plante qui se mourait dans la cuisine. Peu à peu, l'univers de Thomas disparaît. Je referme le carton contenant les affaires de mon fils et la plus belle période de ma vie. C'est douloureux. Je ressens la chaleur de leur petit corps. J'entends leur voix, leurs premiers mots. Je revois Thomas lâcher ma main et s'élancer vers son père sous les applaudissements de sa sœur. Je revois Charline fière de me réciter un poème pour la fête des mères. C'était hier. Où est passé le temps? Les regrets encombrent mon rétroviseur. J'ai l'éprouvant sentiment de ne pas en avoir assez profité. De ne pas avoir eu conscience, au moment où ils étaient palpables, de la fugacité de ces instants. D'avoir laissé le superflu écraser l'essentiel. Un week-end sur deux, quand ils allaient chez leur père, le manque d'eux faisait naître des résolutions. Et puis, la vie quotidienne. Le travail, le ménage, la cuisine, les courses, les trajets, les devoirs, la fatigue. La sonnerie du téléphone éteint ma nostalgie. Le prénom de mon ex-mari s'affiche, affublé d'un emoji représentant un cochon. J'hésite à répondre. Je ne lui ai pas parlé depuis plus de 2 ans. Oui ?
Salut Élise, c'est moi.
Moi qui ?
Ah ah, toujours aussi drôle.
Je te remercie.
C'est Charline qui m'a demandé de t'appeler.
Mon cœur s'emballe. Il lui est arrivé quelque chose ?
Non, non, c'est à propos de ton anniversaire. Elle a l'impression que tu ne la crois pas quand elle te dit qu'elle ne pourra pas être là ce week-end. C'est de ma faute. J'avais complètement oublié la date. C'est les 50 ans de mariage de mes parents. On organise une fête. Elle n'osait pas te le dire. C'est prévu depuis longtemps. Vous pourrez faire un truc plus tard. C'est pas grave.
C'est pas grave. C'est ce qu'il m'a dit il y a 11 ans quand j'ai découvert les messages. Une femme rencontrée au sport. Elle ne représentait rien. Il ne recommencerait pas, promis. Il m'aimait. Il ne voulait pas me perdre. J'ai pardonné. Cela m'a demandé des mois et une thérapie. Il a fini par partir avec cette femme rencontrée au sport, celle qui ne représentait rien. Une affligeante banalité, l'histoire de 2 personnes qui tombent amoureuses et d'une 3e qui tombe au fond d'un gouffre. T'as raison, c'est pas grave. C'est ce que je lui ai dit. Je comprends, nous décalerons. Bonne soirée, merci d'avoir appelé. Joyeux anniversaire à tes parents. Il raccroche. Je m'écroule sur la nouvelle banquette, en boule, la tête dans mes bras. Je pleure le départ de Thomas, l'absence de Charline, les vieilles blessures, le temps qui s'enfuit. Je pleure comme un bébé, comme si je n'allais jamais m'arrêter. Quelque chose me touche le bras. Je lève la tête, une langue chargée de bave me lèche le nez. Édouard me regarde, l'air penaud. Il sait qu'il n'a pas le droit de monter sur le canapé. Mais ça non plus, ce n'est pas grave. Alors, je le serre contre moi et je laisse son haleine fétide asphyxier mon chagrin.
36. Lily. Sans se concerter avec le papa du box voisin, la maman des triplés et celle au regard noir, on se rejoint chaque jour aux alentours de 13h dans la salle des familles. On ne parle pas forcément, mais on est ensemble. C'est étrange tout de même. On n'est jamais aussi entouré que quand on vit une épreuve. Pourtant, on ne se sent jamais aussi seul. Je pensais à ça l'autre nuit dans le lit. Je dormais dans les bras de ton papa, chose qu'on ne faisait jamais avant. J'avais besoin d'espace, je ne dormais bien que tourné vers le vide. Mais depuis ton arrivée, un besoin de contact permanent s'est imposé. Le choc nous a soudés, littéralement. Il faut qu'on se touche, qu'on se frôle, qu'on s'agrippe, comme pour consoler l'autre, comme pour se réconforter soi. Je dormais dans ses bras, tes grands-parents à quelques mètres, mon père et ta marraine à portée de téléphone, tous nos amis, nos voisins, nos collègues présents et disponibles. Et je me sentais infiniment seule. Même portée à plusieurs, le chagrin ne pèse pas moins. Je ne me sens pas moins seule dans la salle des familles. Pourtant, être avec des personnes qui vivent plus ou moins la même aventure, qui connaissent le long couloir, la vue grise, le tableau blanc, les bips des machines, qui côtoient Florence, Estelle, le docteur Bouvin, des personnes qui savent ce qu'est un scope, une sonde, une satte, qui se désinfectent les mains à longueur de journée, qui savent l'inconfort du fauteuil bleu, qui mangent souvent froid, qui dorment toujours mal, être avec des personnes qui se sentent seules, même entourées, ça me fait du bien. Je suis arrivée la première. J'ai dressé la table pour quatre et rempli les verres d'eau. La maman des triplés a suivi, deux boîtes dans les mains. J'ai fait quelques gâteaux. Elle a ouvert les boîtes. Les quelques gâteaux pouvaient nourrir toute la ville. La maman au regard noir a fait son entrée, esquissant une grimace qui se voulait sans doute un sourire. Le papa du box voisin n'a pas tardé. Des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de sa femme lui avaient rendu ses couleurs.
« Au fait, comment s'appellent vos enfants ?» a demandé la maman des triplés.
Ici, nos prénoms n'ont pas d'importance. Pour le personnel et les autres parents, nous sommes la maman de ou le papa de. J'ai donné ton prénom. C'est toujours la même émotion quand je le prononce à voix haute. Quand je dis « ma fille » aussi. C'est nouveau, une région de ma vie sur laquelle je viens d'accoster.
Les miens, c'est Inès, Lina et Sohan. C'est dur de choisir un prénom, alors trois, je vous dis pas.
Moi, vous savez déjà, a répondu le papa du box voisin. Mon fils s'appelle Milo.
Nos regards ont convergé vers la quatrième. Clément. Un seul mot et sa mine était moins sombre. La maman des triplés a enchaîné.
Ça fait 40 jours qu'on est là, je suis trop contente d'avoir des adultes à qui parler. J'aime mes bébés, hein? Mais ils n'ont pas beaucoup de conversations. Ils sont là pour quoi, les vôtres ?
Personne ne se lançait, donc elle a attaqué.
Les miens, ils sont nés à 30 semaines. Dès le troisième mois, ça commençait mal. J'ai dû rester alitée toute ma grossesse. Au début, c'était chouette, surtout que je suis tout le temps debout au boulot. Alors ça me reposait. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais l'impression de me transformer en Draus et je connaissais tous les personnages des Feux de l'amour. Déprime totale. Bon, faut voir les points positifs, j'ai assez tricoté pour les habiller jusqu'à leurs 40 ans.
J'ai laissé échapper un rire. J'adorais sa manière de raconter les choses. Elle a poursuivi.
Le temps était long. Mon mari travaille beaucoup, il rentrait tard le soir. Parfois, ma voisine venait me tenir compagnie. Je crois que je préférais les personnages des Feux de l'amour. Elle est gentille, hein, je dis pas le contraire, mais elle a le charisme d'un phasme. Au bout de 5 mois, j'avais trop de contractions. Alors on m'a hospitalisée et un jour, la piscine s'est vidée et on a dû sortir les poissons du bocal.
Ils vont bien ? J'ai demandé.
Lina et Sohan commencent à s'alimenter seules. C'est plus compliqué pour Inès. Mais les médecins sont très confiants. Si Dieu veut, ils devraient s'en tirer sans séquelles. Ils ont eu beaucoup de chance.
Elle a baissé la voix, comme pour retenir son bonheur. Qu'il n'aille pas narguer les autres. Le papa de Milo a pris la parole. Il nous a raconté la souffrance fœtale aiguë, le manque d'oxygène, les convulsions, l'hypothermie pour limiter les dégâts, l'attente insupportable, l'espoir.
Sa tonicité s'améliore. Il paraît que c'est encourageant. Pendant que ma femme était au bloc, on m'a fait comprendre que je risquais de les perdre tous les deux. Ils sont tirés d'affaire. Pour le reste, on avisera au fur et à mesure.
Instinctivement, la maman des triplés lui a tapoté le bras. J'ai cherché une phrase réconfortante. La seule qui m'est venue est celle que l'on dit quand on n'a rien à dire. Ça va aller. La maman de Clément a gardé le silence. Personne n'a insisté. En quelques mots, j'ai raconté ton histoire. Jusque-là, il m'était souvent arrivé de nous estimer victimes d'une épreuve. Cet obstacle sur notre chemin était un coup du sort. Pour la première fois, je mesurais notre chance. Pour la plupart des gens, avoir un enfant est naturel. On décide de devenir parent, se passe un mois, deux, quatre, six, on danse devant un trait bleu sur un bâtonnet, on annonce la nouvelle à ses proches, on enchaîne les échographies, on donne naissance à un petit être, 3,2 kg, 50 cm. On se découvre un cœur élastique, on connaît une première nuit blanche, on le mitraille de photos et on rentre à la maison avec un membre de plus dans la famille. Pourtant, certains ont douloureusement appris qu'avoir un enfant n'était pas une formalité. Ceux qui espèrent pendant des mois, des années, ceux qui ont arrêté d'espérer, celles qui subissent des traitements, les piqûres, les prises de sang, les prélèvements, ceux qui recueillent leurs semences dans une pièce blanche, ceux qui ont mal en croisant des ventres ronds, ceux qui voient le regard de l'échographiste changer, ceux qui reçoivent le ciel sur la tête, son cœur a cessé de battre, son cœur ne bat pas normalement. Votre cœur ne battra plus jamais comme avant. Ceux qui doivent prendre une décision. Ceux qui n'ont pas à la prendre. Ceux qui sortiront de la maternité les bras vides. Ceux qui ne verront jamais ses yeux s'ouvrir. Ceux qui donneront naissance au silence. Ceux qui verront les sages-femmes s'affoler. Ceux dont le bébé sera emmené. Ceux qui entendront l'inaudible. Problème, malformation, handicap. Attendre. Ceux dont l'existence sera reliée à des machines, ceux qui auront des photos de tuyaux, ceux qui pousseront la porte de la réanimation. Je n'avais jamais envisagé que donner la vie puisse se passer autrement que comme on nous l'avait toujours raconté. Désormais, comme tous les autres parents accidentés, je sais à quel point avoir un enfant en bonne santé relève du miracle.